10. L'autre rive.
Tu parles d'un exploit. Je rembobine un chouille pour vérifier que mon plan démoniarc-gnarc-gnarc a bien fonctionné. Je fais un test et qu'est-ce que j'entends? Une voix de canard constipé qui parle d'un camping-car. Oh mon Dieu. Je me coupe la chic immédiatement. C'est consternant. Je suis consterné. Oh là, que c'est difficile d'être soi quand soi ne vous inspire pas. Que c'est difficile. Il est 3h15. J'ai encore besoin d'un café. Je rince ma tasse, je lève la tête et tiens, je le vois là, mon reflet. Je le vois. Je le regarde. Je pense à Isaac. Je pense à Alice. Je pense à Gabriel. Je pense à Schubert, à Sophia Loren, au popotin de Jacqueline et à son mur des consolations. Je pense au juste et je pense à mes parents. Je pense à mon boulot, à ma vie, à mes tickets restaurants, à mon confort, à ma sécurité, à la notion d'engagement, à ma notion d'engagement, au fric, au blé, à l'argent, à la thune, au pognon, à mes avantages, à mes collègues, à mon chef, à leurs promesses et à mon contrat de travail à durée indéterminée. Indéterminée. Comment un mot aussi lâche a-t-il pu prendre autant de valeur? Comment? Puis je regarde ce jouet posé sur la table qui est devenu comme une bombe à retardement et je baisse de nouveau la tête. Je n'aime pas l'idée de faire de la peine à Mélanie. Je ne l'aime plus assez pour continuer à jouer la comédie du gentil petit couple, mais j'aime trop les gens pour prendre le risque de blesser l'un d'entre eux. Fut-il, fut-elle, celle qui me scalpe mes films, mes desserts et mon enfance. Oui, même elle. Que c'est dur d'être méchant quand on est gentil. Que c'est dur de quitter quelqu'un. Que c'est dur de se rassembler comme il faut, de se mettre en rang et de se parler d'une seule voix quand on n'aime pas l'autorité. Que c'est dur de s'accorder assez d'importance pour décider unilatéralement de changer la vie d'un autre être humain. Et que c'est pathétique d'employer le mot unilatéralement à 26 ans dans la cuisine du petit appartement bourgeois de la vieille tante de sa copine absente à cause de son taf à 3 plombes du matin. Bon, j'ai un petit coup de moule. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mes ouf-ouf? Oh putain, ça fait chier. En plus, ça me rend grossier. Ah, fichtre, ça me contrarie. Résumons. Ce qu'il faut, c'est être égoïste. Au moins un peu égoïste. Sinon, tu ne vis pas vraiment et à la fin, tu meurs quand même. Eh oui. Allez, mon Yannou. Courage. Sors ta bite et ton couteau, là. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes cheesecakes. Ok, mais question toute bête. Comment fait-on pour être égoïste quand on ne l'est pas? Quand on a été élevé dans un monde où l'autre comptait plus que soi. Et face à un océan, en plus. Il faut se forcer, c'est ça? J'ai beau essayer de me raccrocher à cette notion de toutes mes forces. Moi, ma vie, mon bonheur, mon nid, je n'arrive pas à la saisir. Elle ne m'intéresse pas. C'est comme la queue du Mickey. Je levais le bras pour rassurer ma mère, mais je n'en voulais pas en vrai. Je la trouvais moche. Tête baissée, mâchoire crispée, épaules rentrées, bras croisés, poitrine fermée, je réfléchis. Je suis entièrement recroquevillé sur moi-même. De l'extérieur, rien ne perce. J'entends les battements de mon cœur. Je respire lentement et j'essaye de ne pas me faire baiser par la fatigue et la complaisance qui se sont évidemment invités à ce dérisoire sommet. Je pense. Je pense à Isaac. Je ne vois que lui, Isaac Moïse, qui puisse me conduire d'une rive à l'autre. Je me rappelle son visage, ses histoires, ses silences, ses regards, ses ricanements de faune ou de pucelle, sa mauvaise foi, son égoïsme, sa générosité, ce prétexte débile de l'étiquette tout à l'heure et cette façon qu'il avait eue de m'attraper par le poignet à un moment où j'en avais tellement besoin. Je me rappelle sa phrase sur la politesse et le ton sur lequel il l'avait prononcée. Cette douceur et cette cruauté. Et je m'y agrippe de toutes mes forces. Je m'y cramponne parce que c'est la seule certitude que j'arrive encore à sauver de ce merdier. La seule. Oui. Si, je suis celui-là. Je suis poli. Et parce que je suis poli, je finis par me déplier et me libérer enfin de moi-même, et j'appuie une dernière fois sur le bouton vert avant de déposer le petit magnéto de Misia dans le bas du frigo. Que Mélanie ne soit pas contrainte de se taper ma zig d'ado boutonneux en plus de ma volerie. Mon paradise circus. Et mon unfinished sympathy. Et pendant que ma vieille bande enregistre le son du froid, je rassemble mes affaires. Mon sac de marin est prêt. Linge propre, Linge sale, chaussures, rasoir, livre, ordi, ampli, tout tient. Ou de l'avantage de ne s'aimer point. Je récupère l'appareil et j'appuie enfin sur la touche éjecte. Le compartiment s'ouvre dans un bruit de tenaille. Tchac. Plus de fer. J'écris son prénom sur la cassette et la dépose sur son oreiller. Bon, et puis non, sur la table de la cuisine. À défaut d'être grand, restons décents. J'oublie ma clé, je claque la porte et je monte au quatrième. Je pose ma maison à mes pieds, je boutonne mon caban, je sors mes gants, je m'assieds et je retrouve mon mur. Je m'y abandonne. J'attends qu'Alice ou Isaac ouvrent leur porte. Il faut que je leur rende le jouet de la petite et que je leur pose une dernière question. 11. L'horizon. Je m'appelle Yann, André, Marie Karkarek. Je suis né à Saint-Brieuc. J'aurai 27 ans dans quelques mois. Je mesure 1m82. J'ai les cheveux bruns, les yeux bleus. Je n'ai pas de casier judiciaire et aucun signe particulier. J'ai été un enfant sans histoire. Un premier communiant sage comme une image. La mascotte de mon club d'optimistes. Un lycéen tranquille. Un bachelier bien reçu. Un étudiant sérieux. Un cœur d'artichaut en amour et un amoureux fidèle. J'avais trouvé un boulot, à défaut d'avoir eu une passion ou le goût d'un métier. Je venais de signer un contrat à durée indéterminée qui m'aurait permis de commencer à m'endetter un peu pour pouvoir m'endetter davantage un peu plus tard, et je sortais avec une fille issue d'un milieu beaucoup plus raffiné que le mien. Une fille qui m'a montré les bonnes choses de la bourgeoisie et ses limites aussi. Qui m'aura dégrossi, je le reconnais, mais qui m'aura conforté à son insu dans ma bonne grosse bauge crasse de petit-fils de patron de pêche. Qui m'aura permis de prendre conscience que l'on se tenait beaucoup moins bien dans ma famille que dans la sienne, mais que l'on s'y comportait mieux, qu'on y mettait moins les formes, mais que la chaîne était plus longue et l'ancre plus sûre, et qu'on n'y disait pas autant de mal des autres, que les autres nous obsédaient moins. Peut-être parce qu'on était trop bêta pour voir plus loin que le bout de notre nez, ou peut-être parce qu'au bout de notre nez, justement, il y avait l'horizon. Peut-être que cette ligne-là, que ce trait infini entre le ciel et la mer depuis la nuit des temps, ça vous façonnait des êtres humains moins arrogants. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai sûrement tort de généraliser, mais enfin, son père se gourait toujours de prénoms quand il me serrait la pince. Un coup c'était Yvan, un coup c'était Yvon, un coup c'était Erwan, à la longue ça devenait douteux. Elle, sa fille, je l'ai aimée. Sur ma vie, je l'ai aimée. Mais je ne comprenais plus ce qu'elle espérait. Je la décevais, elle me décevait. Nous n'osions pas nous l'avouer, mais nos corps étaient moins courtois que nous et se disaient des choses dans l'intimité. Son odeur, son goût, son haleine, sa transpiration, tout se liguait contre moi. Tout avait changé pour me désarçonner. Et j'imagine que la réciproque était vraie pour elle aussi. Que le savon, le dentifrice et l'eau sauvage ne masquaient pas toujours mes embarras. Non, je ne l'imagine pas, je le sais. Je l'ai su. Hier soir, j'étais seul. Je devais aller au cinéma, mais il y avait un meuble posé en travers de mon palier. Il appartenait à des voisins que je connaissais à peine. Des gens qui habitaient deux étages plus haut. Un couple avec deux petites filles. Je leur ai proposé de les aider à le transporter jusque dans leur appartement et je suis resté avec eux jusqu'aux premières heures du lendemain. Le lendemain, c'est-à-dire ce matin, j'ai pris un TGV dans lequel j'ai dormi pendant toute la durée du trajet, puis un autocar. Une heure plus tard, je suis descendu sur une petite place bordée de platanes et je suis entré dans un café. Un qui m'inspirait et qui devait servir de consolante à des tas de parties de pétanque à la belle saison. Mon canon bu, j'ai sorti un bout de papier de ma poche et l'ai montré à la ronde afin que l'on m'indiquât la direction à prendre et la route où tendre mon bras. On s'en empara, on le commenta, on s'y mit à plusieurs et on le froissa au passage. On aurait dit une sorte de carte. Une carte au trésor avec une croix du sud dessinée au milieu. Quand j'ai remercié, on m'a répondu, ou plutôt on m'a rétorqué, « Avec plaisir ». Et j'ai sursauté. Je n'ai pas attendu très longtemps. Un jeune type m'a pris dans sa camionnette. Il était maçon. Il construisait des piscines, mais là, c'était la morte saison, alors il réparait des caveaux à la place. Le pouce et l'index dressés, il visait des corbeaux au loin et les descendait à coups d'onomatopée. Quand il se roulait une cigarette, il coinçait le volant entre ses genoux et accélérait pour stabiliser le véhicule. Il allait de papa. Ce soir, ça se trouvait. Tang ! Il répétait. Ting, ça devenait périlleux, là. Je souriais. Tout ce qu'il disait m'enchantait. J'aimais sa voix, son accent, sa faconde, son côté Al Pacino des Garrigues. Il devait avoir mon âge, il avait déjà une camionnette avec son nom et son prénom écrit dessus, des charges sociales et une famille. Tout cela était très exotique. Il m'a déposé un embranchement. Il était désolé de me refuser ce détour, mais...
T'es... la photo pichone.
C'était tout là-bas, derrière cette colline. Je pouvais suivre la route, mais j'irais plus vite en coupant à travers champs. Je l'ai remercié. J'étais soulagé de devoir marcher. J'avais le trac. Je me disais que le poids de mon sac multiplié par le nombre de foulées finirait par me détendre. Et ce n'était qu'une supposition parmi les milliers d'autres qui me brouillaient la vue. Je cogitais, je marchais, j'échafaudais. J'imaginais des dialogues et des répliques, et j'avançais de plus en plus vite pour essayer de semer mes objections. Mon sac me sciait l'épaule. Il y avait une sorte de maisonnette en pierre au bord de la route. La porte était facile à ouvrir. J'y ai déposé mes livres. Je reviendrai. Personne ne vole jamais les livres. J'ai reconnu la maison. C'était la même que sur mon bout de papier. J'ai laissé mon sac à l'extérieur devant l'un des piliers du portail. Je suis entré dans une cour et me suis dirigé vers la partie la plus coquette de cet ensemble de bâtiments. Là où il y avait des bottes devant la porte et des rideaux aux fenêtres. J'ai toqué. Pas de réponse. Un peu plus fort. Toujours personne. Damned. Plus de trésor. J'ai regardé autour de moi. J'essayais de comprendre où j'étais, comment tout ça s'imbriquait et ce que je fichais dans ce trou. C'était confus. Finalement, la porte s'est ouverte dans mon dos. Je me suis retourné avec un grand sourire en guise de bouquet de fleurs. Hélas, il s'est fané en cours de route. Merde, je ne m'y attendais pas du tout. Elle en était déjà là? Du menton, elle m'a indiqué un hangar. Si je ne le trouvais pas, je n'aurais qu'à aller au bout du chemin et chercher une silhouette dans les coteaux.
Une silhouette ou un chien? Si vous tenez la queue d'un chien, c'est que le bonhomme n'est pas loin.
Elle se marrait.
Je m'étais déjà éloigné de 3 pas quand elle a ajouté « Rappelez-lui que Tom a entraînement à 6 heures. Il comprendra. Merci. »
J'étais troublé. Moi qui suis si attentif aux gens, je serais incapable de vous la décrire, de raconter son visage, sa tenue ou la couleur de ses cheveux. La seule chose d'elle dont je me souvenais, c'était ce que j'avais désespérément cherché à éviter du regard. Une paire de béquilles.
12. La terre ferme.
Qu'est-ce que j'espérais au juste? Je ne sais pas. Quelque chose qui eut plus de gueule. Une scène. Une belle scène. Comme dans un film ou dans un livre. Une lumière. Un ciel en majesté et un homme debout.
Oui, voilà, un homme debout avec une... un genre de sécateur à la main. Et même un orchestre pendant que j'y étais. Les trompettes de Star Wars, la chevauchée des Valkyries ou je ne sais quelle connerie. Au lieu de ça, je me tenais sur le seuil d'un hangar éclairé au néon avec un chien qui me reniflait les parties et les postillons des grosses têtes en fond sonore. Bien joué, mon Yanou, bien joué. Eh, c'est pas un chameau, ta vie. C'est un gros bâtard. J'avais beau plisser les yeux, je ne voyais que dalle.
Y a quelqu'un ?
Au-dessus du capot d'un tracteur, j'ignore si les tracteurs ont des capots et je ne suis pas sûr que l'engin en question fût un tracteur, une silhouette hirsute s'est redressée en jurant.
Jour ?
Qu'il a grogné.
Vous êtes le gars des assurances, c'est ça ? Par cœur, au pied, mon Dieu !
Misère. On peut la refaire sans le kleps, là ? Il m'a dévisagé. On sentait qu'il avait un doute. Pour un agent Groupama, j'étais un peu débraillé comme garçon, non? Comme je ne répondais rien, il a fini par me tourner le dos.
Je peux vous aider?
Et là, je me suis envolé.
Non,
je lui ai répondu.
Non. Vous, non. Mais moi, oui. Moi, je suis venu pour ça, pour vous aider. Pardon, bonjour, je m'appelle Yann.
Il s'était retourné.
Hier soir, j'ai rencontré Isaac Moïse. Il m'a invité à dîner et comme on buvait votre vin, il m'a parlé de vous. Il m'a raconté votre histoire et la maladie de votre épouse et tout ça. Il m'a dit que vous n'y croyiez plus, que vous étiez fatigué, que vous aviez décidé de vendre votre exploitation et que...
Il me dévisageait à présent et moi, je regardais ailleurs pour ne pas flancher. Je comptais les taches de cambouis sur sa côte.
Et non. Vous n'allez pas vendre. Vous n'allez pas vendre parce que j'ai quitté mon boulot pour vous. Mon boulot, ma vie, ma copine, tout. Enfin, non. Pas pour vous, pour moi. Et les Moïse me prêtent leur maison jusqu'à l'été. J'ai 2 bras, 2 jambes.
Mes vaccins sont à jour, je suis breton, j'ai la tête dure, je n'y connais rien en vain, mais j'apprendrai. J'apprends vite quand ça m'intéresse. Et puis j'ai le permis. Je peux faire des conduites, je peux faire les courses, je peux m'occuper des repas, je peux emmener Tom à son entraînement tout à l'heure si vous voulez. Je peux faire tout ce que votre... tout ce qu'Ariane faisait et qu'elle ne peut plus assurer pour le moment. Et puis mes parents vont vous aider aussi. Mon père était expert comptable. Aujourd'hui il est à la retraite, mais il calcule toujours aussi vite et il vous aidera du mieux qu'il pourra, j'en suis sûr. En plus, ma mère et lui font partie d'une espèce de club de vieux qui sillonne l'Europe en camping-car et au moment des vendanges, ils viendront tous, vous verrez. Eux et leurs potes anglais, italiens, hollandais et toute la clique. Et je peux vous garantir que ça va dépoter, que ces gens-là ne compteront pas leur peine pour vous, qu'ils seront fiers même. Il ne faut pas vendre, Pierre. C'est trop beau ce que vous avez fait jusque-là. Il ne faut pas baisser les bras. Silence. Silence de plomb. Silence de merde. Silence sépulcral sous les néons blafards. Le gaillard me fixait droit dans les yeux. Son visage ne trahissait aucune émotion. Me prenait-il pour un dingue? Avait-il jeté l'éponge depuis longtemps? Avait-il déjà signé quelque chose? Aurait-il préféré que je sois assureur, liquidateur, clerc de notaire? Cherchait-il une réplique bien cinglante pour me renvoyer d'où je venais? Était-il en train d'affûter ses mots pour me rappeler comme il faut l'outrecuidance et la vanité de ma ridicule posture de petit bobo parisien mal dans sa peau et en quête de bio-aventure? Était-il sourd? Était-il bête? Était-il le patron? Était-il Pierre Cavanès? Connaissait-il seulement mes voisins de palier? Était-il un employé agricole? Ou un réparateur de tracteur, peut-être? Comprenait-il le français?
Youhou, noble indigène, toi comprendre ce que moi à te dire?
Ça durait des plombes.
Ding, ça devenait périlleux, là,
comme aurait dit mon ami maçon. Je ne savais plus si je devais avancer d'un pas ou repartir en courant. Le problème, c'est que je n'avais pas du tout envie de m'en aller. Je venais de trop loin et j'avais fait trop de chemin depuis la veille. Je ne pouvais pas. Les néons nasillaient, le poste crachotait, le chien comptait les points et moi j'attendais. J'avais toujours son étiquette à la main et je suivais les instructions de mon ami Isaac. Je divertissais le destin. J'étais grotesque? La situation était grotesque? Tant pis. Tant pis pour moi. Je voulais bien me faire latter encore une fois, mais je n'abandonnerai pas mon nid. Pas déjà. Plus maintenant. J'en avais plein le dos d'être poli. Ça ne payait pas.
Eh bé, a-t-il fini par me demander. Vous en avez bu tant que ça?
Son visage semblait toujours aussi impassible, mais une once, un frisely chantant de goguenardise, s'était accoquiné au point d'interrogation. J'ai souri. Il m'observait encore un moment avant de s'intéresser de nouveau à son moteur.
Alors comme ça, c'est Moïse qui vous envoie.
Lui-même. Silence. Long silence. Grosse tête. Malaise. Au bout de, je ne sais pas, 10, 15, 20 minutes peut-être, il a levé la tête et m'a indiqué le volant du regard.
Vas-y, démarre pour voir.
Et j'ai démarré. Pour voir.